À cette époque-ci de l'année, comme tout le temps d'ailleurs pendant l'année, les églises du monde mettent malheureusement l'emphase d'une mauvaise manière sur l'amour. Et je parle de l'amour entre guillemets ici. Je ne parle pas de l'amour de Dieu ni de l'amour fraternel, mais seulement de l'amour dont on parle généralement dans ce monde-ci. Alors, il y a un article que j'ai lu ce matin en préparation justement de ce sermon-ci. J'ai pris note d'une partie de cet article-là, qui, entre autres, va aller dans la Real Truth, hein, parce que j'ai pris le temps de lire et c'est très bien fait. C'est en rapport avec cette nouvelle question, hein, un article, partie 2, que nous allons publier, et parle des questions que vous devriez demander à votre ministre, mais qu'il ne veut pas que vous lui posiez. Alors, ça a à faire avec l'amour, bien entendu, et c'est quelque chose de très intéressant. Et j'ai demandé au département de la Poste de ramasser ensemble une série de courriels pour que je puisse vous donner un exemple. Alors, il s'agit de plusieurs courriels, hein, qui nous donnent une idée de ce que les gens nous disent, comment ils nous disent que nous sommes dans l'erreur lorsque nous nous concentrons sur la vérité ou sur la doctrine ou encore sur les enseignements de la Bible ou sur ce que Dieu nous dit sur n'importe quel sujet, sauf celui de l'amour. Et comme je l'ai déjà dit, l'amour, c'est tout ce qu'une personne veut que ça soit dans une situation particulière. C'est un sujet, ce qu'on pourrait dire, très fluide, et qui est presque toujours ou généralement défini comme étant un sentiment, hein, un sentiment que quelqu'un a de l'amour, un sentiment que les autres n'en ont pas. Et bien entendu, il y a plusieurs personnes qui lisent à partir de notre site Internet, et ils aiment ce qu'ils lisent. Mais il y en a d'autres qui vont lire la même chose, puis ils vont dire la vérité. Ils vont nous dire, par exemple, vous citez les Écritures et ils sont hors de contexte, ou quelle différence est-ce que ça peut bien faire que nous croyons, l'important, c'est l'amour. Alors j'ai pensé que je vous laisserai voir ce que ces lettres nous disent, et je m'en sers comme introduction à un sermon unique dans son genre, si on peut dire, sur le sujet de l'amour. Et je vais vous en parler d'une façon dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant. Et vous pouvez me croire là-dessus. Alors j'aimerais que vous écoutiez ce que ces courriels nous disent, la façon dont ils nous sont écrits. Vous allez être assez étonné de ce qu'ils contiennent. Alors voici une petite liste, hein. J'en ai une demi-douzaine, peut-être sept. Alors, en voici un qui est arrivé il y a environ une semaine, je crois. Alors, Dieu est amour et nous devons nous aimer les uns les autres. Peut-être n'avons-nous pas toujours les bonnes dates. Alors, je vous dis tout de suite que ceci était en réponse à la brochure sur le Noël. Mais je pense que la plupart des chrétiens ont le cœur à la bonne place. Certains se font entraîner, si vous voulez, à essayer de prouver ou de réfuter ceci ou cela, et leur cœur devient dur. Une personne ne peut jamais se tromper lorsqu'elle parle d'amour ou qu'elle pose des actes d'amour, quelle que soit la période de l'année pour l'exprimer. Dieu connaît le cœur des gens. Alors dans ce cas ici, l'amour devient plus ou moins la permission de suivre ou d'observer le jour que vous voulez, de faire ce que vous voulez, et ne pas permettre à Dieu de vous dire quelque chose de différent de ça. De toute évidence, à leur esprit, ne permettez pas aux hommes de vous dire de faire quelque chose d'autre. Alors en voici un autre maintenant sur le sujet des dîmes. Je pense que vous avez l'idée des dîmes correctement, mais je pense que votre méthodologie, elle, est peut-être dans l'erreur. La dîme appartient au Seigneur, mais comment peut-on la payer à Dieu? En la donnant à l'Église? Non. En faisant avec cette dîme-là ce que Dieu nous a enseigné, c'est-à-dire prendre soin des pauvres et ceux qui ont besoin d'aide. Nous adorons Dieu en vivant des vies qui sont saintes, alors ça c'est vrai, et en vivant en lui, en faisant preuve d'amour et en aidant ceux autour de nous qui ont besoin d'aide. Ceci peut prendre beaucoup plus que 10%. Et ironiquement, je suis persuadé que si vous regardez dans leur porte-monnaie, ils n'ont même pas pris une partie de ce 10%-là, mais ils ont une façon de dire les choses qui laisse sous-entendre que ça va prendre plus que 10%. Et je poursuis maintenant. Parce que vous avez dit que tout, hein, ce que nous avons appartient au Seigneur, pas seulement notre argent, mais notre temps, nos talents. Alors chacun d'entre nous devrait être utilisé pour faire ce que Dieu nous a dit, et non pas ce qu'une organisation religieuse nous dit de faire. Nous devons faire ce que Dieu nous dit. Amen. Et c'est la fin de sa lettre. Alors ici, comme vous pouvez voir, l'amour est utilisé comme excuse pour ne jamais rien faire ce qu'une église ou ce qu'une organisation vous dit de faire. Alors, ce n'est pas nécessaire de vous préoccuper de savoir si vous payez ou non les dîmes à Dieu, parce que si vous avez de l'amour, vous allez faire davantage que si vous payez des dîmes. Alors, on peut s'apercevoir ici que l'amour est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à songer à tout ce que ça vous permet de faire. Alors, voici maintenant une autre lettre. J'étais justement en train de lire quelques articles sur votre site Internet et j'ai pensé vous écrire quelques questions. Premièrement, peut-être y a-t-il quelque chose que je ne comprends pas? Mais pourquoi est-ce que c'est important de savoir si Jésus a été ressuscité un samedi ou un dimanche ou n'importe quel autre jour? Je pense que la majorité des gens qui s'appellent chrétiens sont pleinement conscients que le sabbat a été originellement le samedi. Et ensuite, je me rends au troisième point ici. Il poursuit en disant, et puis, est-ce que Christ n'a pas déclaré que aimez le Seigneur, votre Dieu, avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec toute votre force et avec tout votre esprit, et qu'aimer votre prochain était la véritable signification de la loi mosaïque, et que c'est ce que nous, chrétiens, devions faire? Alors, quelle différence est-ce que ça peut lui faire, lui, qui nous a créés, si nous assistons à l'Église un dimanche ou un samedi ou n'importe quel autre jour? Tout se résume à l'amour. Alors ici, on peut voir que l'amour signifie que vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du sabbat. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de choses comme lorsque Christ était ressuscité, même s'il a dit lui-même que c'était le seul signe qu'il nous donnerait, à savoir s'il était ou non le Messie. Alors tout cela n'a pas d'importance aussi longtemps que vous avez, vous, à l'esprit, ce que cette personne appelle l'amour. Ensuite, nous avons un autre qui nous écrit ici et qui nous dit « S'il vous plaît, veuillez trouver, si attaché, ma présentation PowerPoint intitulée « Une vue en ce qui concerne la foi ». Alors écoutez bien ceci, frère. Si vous avez quelques doutes que ce soit sur le genre d'esprit qui guide cette idée-là que l'amour est tout, alors écoutez bien ce qui suit. Être un athée ne fait pas de moi une mauvaise personne. Je crois que le grand livre, ayant été écrit par les gens instruits de l'époque, n'est rien d'autre qu'une impression du sens commun qui est dirigée vers les gens non initiés de façon à leur donner une façon de se comporter juste et décente dans la vie. Mais, malgré tout, il s'agit tout de même d'un ouvrage de fiction. Et on parle de la Bible ici. Une fois que l'information valable a été digérée, le reste des galimatias, si elles sont suivies religieusement, peuvent avoir un effet contraire. Le fanatisme religieux crée plus de problèmes que l'amour en crée. Et vous ne trouverez jamais les athées qui vont déclarer la guerre à qui que ce soit au nom de l'athéisme. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'amour, de l'amour et de l'amour. Alors voici un athée, frères et sœurs, qui croit que la Bible est une fiction. Il est prêt, par contre, à prêcher à propos de l'amour, mais ça va encore plus loin que ça. En voici un autre maintenant. Il est extrêmement important, frères et sœurs, que nous comprenions exactement ce qu'est l'amour, et vous allez comprendre pourquoi je dis cela dans un moment. Le sujet de ce courriel-là est, on pourrait dire, « je me pose des questions, je m'interroge ». Il commence en disant « Je me demande quel est votre rôle dans toute cette destruction, la mort, le chaos et la douleur. J'ai toujours pensé que la majorité des choses à propos de Jésus, le Fils de Dieu, étaient au sujet de l'amour, la même chose que Bouddha, que Gandhi ou que l'hindouisme, et etc. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il pense que l'amour est à peu près la même chose que ce qu'il perçoit en Christ, que les deux sont le même. » Et il poursuit en disant « Alors, pourquoi est-ce que la majorité de votre site Internet et à propos de quelque chose d'autre que l'amour? La seule chose que je peux conclure, c'est que vous voulez que les révélations se produisent. Vous avez besoin qu'elles se produisent. Alors, est-ce que vous n'en êtes pas tout autant la cause, comme le sont les États-Unis ou la Grande-Bretagne? » Et ensuite, il ajoute un post-scriptum. Alors, on peut se demander si cette personne-là est vraiment en contact avec la réalité ici. Alors voici son post-scriptum. Il dit, il n'y a pas d'États-Unis, il n'y a pas de Royaume-Uni, il n'y a que la vie elle-même. Il n'y a que vivre et ne pas vivre. Alors il nous dit ici, la vie, c'est vivre ou ne pas vivre. Alors la vie pourrait être vivre, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est ne pas vivre. Mais encore là, on parle ici d'une personne qui croit que les États-Unis et la Grande-Bretagne n'existent pas. Alors maintenant, tournons-nous vers quelqu'un qui a laissé l'Église en 1995. Alors nous venons de voir des gens qui mettent exactement la même emphase sur l'amour que l'hindouisme, le bouddhisme, Gandhi ou le Christ, hein, un ou l'autre. Ou encore comme le ferait n'importe quel athée, ou qui que ce soit d'autre qui participe à un élément quelconque du christianisme de la façon dont le monde le pratique. Alors cette personne-là nous dit, j'ai trouvé votre site internet et j'ai quelques questions à vous poser au sujet de vos désaccords avec les changements de politique qui ont été faits dans l'Église universelle de Dieu. J'ai assisté à l'Église universelle de 1974 jusqu'en 1995. J'ai été élevé dans l'Église à partir de l'âge de 4 ans jusqu'à ce que j'ai 25 ans. Alors cela signifie qu'il avait au mieux 16 ans lorsque M. Armstrong est mort. Cela signifie également qu'il n'a pas vraiment une vue fidèle ou réelle de ce qu'il a abandonné derrière lui. Je suis en mesure de comprendre le fondement biblique de la majorité des enseignements de M. Armstrong par rapport aux changements que M. Tkach a apportés aux différentes politiques et doctrines. Alors, quel est votre fondement biblique à vous pour ne pas vouloir d'augmentation, par exemple, de dîmes du nombre de chants dans un service? Ou encore dans les prières pendant le service. Et après ça, il continue un peu plus loin avec d'autres items. Où dans la Bible, Jésus a-t-il ostracisé une femme parce qu'elle est devenue enceinte en dehors du mariage? Le péché ne doit pas être récompensé. Remarquez qu'ici, il ne dit pas ce que le péché est, par contre. Mais il sera encore plus destructif de se détourner de quelqu'un qui a fait une erreur que d'essayer de l'aider en l'abraçant avec amour, support et miséricorde. Alors, en fait, ce qu'il nous dit ici, c'est que l'amour est une façon d'accepter les gens qui ont péché. Il poursuit en disant, « Je respecte vos opinions religieuses et vos croyances dans les doctrines, mais je ne comprends pas ce qui semble être un manque complet d'amour qui ressemble à l'amour que Christ avait dans votre site Internet. » Nous devons croître non seulement dans notre relation et notre compréhension de la vérité de Dieu, alors au moins il dit cette chose-là, mais aussi dans notre capacité d'aimer et de pardonner comme Dieu et Christ l'ont fait pour chacun d'entre nous. Alors je crois que nous devons nous éloigner du péché. Alors je crois qu'il ne sait pas exactement ce qu'il dit là, à ce moment-ci. Et que nous devons embrasser et essayer de suivre les exemples qui ont été établis pour nous. Alors, on peut voir ici qu'il s'agit d'une personne qui n'a pas lu beaucoup dans notre site Internet. Nous parlons d'amour avec abondance. Vous trouvez plusieurs sermons à ce sujet-là. Nous parlons probablement plus d'amour que n'importe quel autre groupe qui prononce ce mot-là. Et je parle de ce que notre site Internet renferme ici. Je suis persuadé que les autres groupes, hein, les autres splinters, ont une abondance de sermons sur le sujet qui se rapprochent beaucoup plus de la façon dont le monde l'enseigne que la Bible ou M. Armstrong l'ont enseigné. Alors voici maintenant quelque chose de la part d'une personne qui a laissé l'Église il y a environ un mois ou deux. La lettre qu'il a envoyée aux autres, au moment où il l'a quittée, porte le titre « Aimez-vous les uns les autres ». Il commence ainsi. « Pendant tous ces derniers mois, j'ai été très troublé par quelques-unes des choses qui ont été dites et écrites par M. Pack. » Et ensuite, il poursuit en disant qu'il a eu une expérience avec l'Église de Philadelphie où le dirigeant là, disait que nous étions en guerre contre les Laodicéens. Il poursuit en disant « Je ne veux pas être en guerre avec qui que ce soit, tout spécialement, avec mes frères et sœurs spirituels qui sont dispersés dans les différents autres groupes de l'Église de Dieu. Je les aime tous énormément et je leur souhaite ce qu'il y a de meilleur. » Et toujours en continuant, il dit, « Les mots « nos ennemis » font référence aux dirigeants et aux membres des autres groupes de l'Église de Dieu. Je ne crois pas avoir d'ennemis dans les autres groupes des églises de Dieu et je ne suis pas en guerre avec aucun d'entre eux. Je suppose qu'il croit tout simplement qu'il peut tous les aimer et que lorsque Paul dit qu'il existe certains ennemis de la croix et lorsque Christ dit à propos de certaines personnes qu'ils peuvent être contre lui ou quand M. Armstrong parle à propos d'ennemis, et je suppose que lorsque moi je parle d'ennemis de la vérité, il n'est pas d'accord avec ça. Et il poursuit en disant, « Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu va tourner le dos à ceux qu'il a lui-même appelés, à son peuple choisi, et qui sont venus avec suffisamment de foi au lieu de sécurité pour avoir sa protection? » Et moi, j'ajouterais, « Peu importe ce qu'il croit. » Et il poursuit en disant, « Ça ne peut pas arriver une telle chose-là, tout particulièrement si ce sont des membres de l'Église qui regrettent beaucoup. » Et moi, j'ajoute, oui, vous le regretteriez sans doute énormément, mais il serait trop tard. Ils auraient dû se repentir alors qu'ils avaient le temps plus tôt. Alors, c'est une déclaration absolument incroyable, ça, ici. Dire que Dieu est en quelque sorte lié à quiconque aurait pu faire son chemin, c'est-à-dire faire du pouce, prendre un bateau ou se faire larguer par une cigogne au lieu de sécurité, peu importe la façon dont ils ont pu se rendre, et d'entendre Dieu dire, par exemple, « Oh, mais je suis obligé de les accepter. » Ensuite, il poursuit et continue en expliquant que comment est-ce que c'est essentiel d'avoir un acte d'amour. Il poursuit ensuite dans le restant de toute sa lettre, « Où trouve-t-on l'amour de Philadelphie, et etc. » Alors tout ça pour vous dire que souvent, lorsque les gens quittent l'Église, ils parlent beaucoup du sujet de l'amour. C'est quelque chose que j'ai commencé à préparer, ce sermon-ci, il y a environ 25 ans. J'ai créé un fichier, un dossier que j'ai intitulé, et je vous montre ici les premières notes que j'ai écrites au début des années 80, je l'avais intitulé « Ils n'ont pas d'amour ». J'avais commencé à remarquer que lorsque les gens quittaient l'Église, ils disaient presque invariablement « Je ne vois pas d'amour ici » ou « Il n'y a plus d'amour ici » ou « Il n'y en a pas », tout simplement. Et parfois même, ils ajoutaient, « Il n'y a personne qui me parle. » Et si vous regardiez les gens qui disaient une telle chose, comme j'ai commencé à le faire il y a maintenant près de 25 ans, très soigneusement, je pouvais m'apercevoir que c'était des gens qui n'étaient jamais portés vers les autres. Ils ne suivaient même pas le conseil que les proverbes nous disent, « Si vous voulez avoir des amis, il faut se montrer amical. » Et parce que plusieurs d'entre eux n'étaient pas amicaux, ne faisaient pas tout ce qu'il fallait pour aller vers les autres, et qu'ils ne montraient aucun amour du tout, eux-mêmes, alors ils croyaient percevoir chez les autres ce même manque d'amour. Ensuite, un autre des problèmes qu'ils avaient, c'est qu'ils ne savaient pas comment définir l'amour. Ils avaient ce sentiment, entre guillemets, là, qu'il n'y avait pas d'amour. J'avais aussi remarqué que ces personnes-là ne servaient que très rarement. Ils étaient presque invariablement des personnes qui étaient servies lors des services et des activités. Ce n'étaient pas des gens qui servaient les autres. Ils n'étaient pas réellement impliqués dans la joie et l'excitation de ce que peut représenter, à un moment donné, l'expérience de donner par rapport à recevoir. Alors, invariablement, ou presque invariablement, je devrais dire, ils étaient ceux qui étaient servis lors des services et des activités, et non pas ceux qui servaient. J'ai pu aussi remarquer que la majorité d'entre eux étaient souvent pris par certains péchés particuliers. Nous savons que l'amour est l'accomplissement de la loi, et que l'amour, c'est d'observer les commandements. Vous n'avez qu'à lire Romains 13, 10 et 1 Jean 5, 3. Vous connaissez ces versets-là. Et j'ai réalisé que dans la majorité des cas, et j'ai commencé à vérifier ces personnes-là, et j'ai trouvé que, bien souvent, ils n'avaient pas payé leur dîme. Également, bien souvent, ils contrevenaient au sabbat. Et très souvent aussi, ils avaient eu des mariages terribles, qu'ils ne mettaient pas en pratique les éléments de base du christianisme. Ils avaient pu se faire prendre par la convoitise, la poursuite du matérialisme, qui généralement accompagne le fait de ne pas payer de dîme, en passant. Donc, titre 3, au verset 10 et 11, nous vient à l'esprit à ce moment-là. Alors, plutôt intéressant, nous pouvons nous rendre à Tite 3, versets 10 et 11. Alors le verset 10 nous dit « Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. » Alors j'établis un certain parallèle ici avec ces personnes-là, hein, qui partent et qui disent qu'il n'y a pas beaucoup d'amour. Peut-être est-ce qu'ils n'ont pas trouvé de désaccords doctrinaux, mais ils ont à peu près le même comportement. Donc, il est écrit « éloigne-toi » ou « éloigne-les » après un premier et un second avertissement. L'anglais dit « rejeter »,« rejette-les ». Le verset 11 poursuit en disant « sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même ». Ou comme la version Moffat le traduit, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres sermons, « il pêche, il le sait très bien ». Alors, il y a beaucoup de gens qui vont réduire, tout simplement, ou résumer l'amour à un sentiment. Ça ne peut donc être l'observance de la loi de Dieu parce qu'ils se condamneraient eux-mêmes. Ce serait comme s'ils se regardaient eux-mêmes dans le miroir et qu'ils disaient « tu n'as pas d'amour » en voyant leur propre image. Alors, ils décident de quitter l'Église en récitant la mantra la plus fréquente que j'ai entendue dans mes 37 ou 37 années et demie de ministère. Ils récitent cette grande mantra-là, comme la majorité des gens le font lorsqu'ils quittent l'Église, et c'est « l'Église n'a pas d'amour ». Et croyez-moi, les églises dans le monde les attendent à bras ouverts. Et les splinters, les autres groupes qui sont là, les attendent aussi parce que c'est le même esprit qui les guide. Le même esprit que les églises du monde et que les athées ou les bouddhistes ou les hindous hein, ou les fidèles de Gandhi, etc. C'est le même esprit. Et nous avons déjà lu d'autres publications et d'autres explications à ce sujet-là. Périodiquement, il est important que nous parlions de l'amour, mais il est important également que nous comprenions exactement ce qu'est l'amour. Dans le premier sermon que j'ai donné, à la naissance de l'Église de Dieu restaurée, la reconstitution de l'œuvre finale de Dieu, j'ai donné le titre « The Great Shepherd's Voice hein, » ou « La voix du grand berger ». Et je voulais que chacun comprenne bien que le sceau, que le signe principal de l'Église était que la voix de la vérité de Christ devait y être présent. Alors c'était le premier sermon que j'ai donné. Et ce n'était pas par accident que j'ai donné ce sermon-là le 8 mai 1999. Vous pouvez vérifier, hein? Je suis certain que c'est le jour de sabbat où je l'ai donné. Je venais de terminer les sermons en trois parties qui prouvaient que M. Armstrong était l'Élie. Ensuite, j'ai été congédié. Et le 8, je voulais donner ce sermon-là, « The Great Shepherd's Voice ». Cette église-là était pour enseigner la vérité sans faire de compromis. Le sabbat suivant, le 15 mai, j'ai poursuivi avec un sermon qui démontrait et qui prouvait que le sceau le plus important de la sixième ère de l'Église, et je crois que je l'avais intitulé quelque chose comme « Permettons à l'amour fraternel de se poursuivre » en citant Hébreux 13.1, si c'est bien le verset aussi, là. Alors, je voulais que cette Église-là puisse reposer sur deux prémices. Premièrement, nous allions enseigner la vérité de Dieu, peu importe ce qui se passerait, et le faire sans compromis. Et deuxièmement, nous étions pour mettre en pratique l'amour fraternel, parce que, après tout, être philadelphien, c'est-à-dire l'ère de l'amour fraternel, nous étions mieux d'avoir cet amour-là en nous. Et il fallait que cet amour se retrouve ici. Il était donc important que les membres de l'Église sachent très bien ce qu'était cet amour-là. Comme un acteur l'a déjà dit, c'est quelque chose que j'ai lu il n'y a pas tellement longtemps, et je pense qu'il y avait un certain degré de vérité là-dedans. Les gens peuvent ne pas toujours se souvenir ce que vous dites, mais ils vont toujours se souvenir comment vous les avez fait se sentir. Comme je dis, c'est une déclaration qui est assez intéressante de la part d'un acteur, et il y a de la vérité là-dedans. Les sentiments ont une certaine importance. L'amour de Dieu exprimé envers les autres devrait normalement les faire se sentir bien. Il y a des sentiments qui sont associés à l'amour, hein, à la fois chez celui qui exprime cet amour-là et celui qui en est l'objet, qui le reçoit. Toutefois, il faut se rappeler que les sentiments peuvent être quelque chose de très dangereux. lorsque vous relisez les Proverbes 14, 12 et 16, 25. Il est écrit ici, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » En d'autres mots, ça l'entraîne directement à la mort. L'application de ces versets-là dans ce sermon-ci, c'est que les gens ont ce sentiment-là, qu'il n'y a pas d'amour, ils abandonnent l'Église et ils se dirigent directement vers la mort. Christ ne travaille qu'à un seul endroit sur la terre, et il ne travaille pas contre lui-même. Mais aussi longtemps que vous vous direz à vous-même, « Je m'en vais à l'endroit où il y a de l'amour » et non pas « J'arrive de l'endroit où je quitte l'endroit où il y en avait », cela rend votre départ plus difficile car Dieu est amour. On retrouve ça dans 1 Jean 4, 8 et au verset 16 également. Dieu a tellement aimé le monde, les gens ont toujours ça présent à l'esprit. Ce sont des versets qui sont très importants. Il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique de façon à ce que tous ceux qui croiront en lui... Et c'est beaucoup de personnes. Il est donc très, très, très important que nous comprenions ce qu'est l'amour. Alors la question doit être, quel est donc votre fondement pour comprendre ce qu'est l'amour? J'étais supposé donner ce sermon-là il y a environ une semaine. Et j'étais pour dire qu'il y a 40 ans hier, mais étant donné que c'est 8 jours de ça, alors je dois dire que il y a maintenant 40 ans et 8 jours de cela, je recevais l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. J'ai eu l'occasion de travailler avec des milliers de personnes, leur enseignant l'amour de Dieu, en essayant de témoigner de cet amour avec les gens, essayant de refléter cet amour-là moi-même, en étudiant les passages des Écritures à ce sujet-là. Et j'espère que grâce à ce sermon-ci aujourd'hui, vous allez quitter avec une compréhension plus nette et plus claire de ce que doit être toujours le fondement qui vous permet de savoir si oui ou non vous avez de l'amour. Alors rendez-vous dans Jean, Jean au chapitre 13, et commençons avec un verset que tant de monde aime citer et que si peu de gens comprennent. Jean 13 et au verset 34. Jean 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alors, on voit ici que c'est un nouveau commandement. Alors, la Bible ne dit pas ici que vous êtes supposé aimer les autres personnes. Christ n'a jamais écrit dans l'Ancien Testament, en tant qu'auteur de l'Ancien Testament, il n'a jamais dit que vous êtes supposé aimer les autres personnes comme je vous ai aimé. Jamais il ne l'a dit de cette façon-là. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et au verset 35, à ceci, la façon de s'aimer, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il s'agit donc d'un verset qui est très important ici. Vous voyez ce que ça amène. C'est la façon dont les gens vont savoir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Alors, il est très intéressant également de noter que 5 chapitres plus tôt, peut-être que vous pourriez vous rendre là dans Jean 8, c'est assez intéressant, Jean 8, et au verset 30, « Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Alors, Jean 8, 30 et verset 32, ou 30 à 32. « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. » Maintenant, suivre la vérité, par contre, n'impressionne pas vraiment le monde. Le monde croit que les doctrines de Dieu sont tout simplement folles. Ce n'est pas le cas de Dieu. Et c'est pourquoi il jette un œil afin de savoir si nous obéissons à ces doctrines-là. Mais le monde, lui, recherche l'amour. Et c'est pourquoi il est écrit à ceci, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples », et non pas « Si vous demeurez dans ma parole ». C'est une façon de dire les choses qui n'intéresse pas beaucoup le monde, ça. Mais lorsqu'on entend parler de véritable amour, alors les gens se disent « Wow, ça c'est vraiment les disciples du Christ ». Christ sait qui sont ses disciples, ou que nous sommes ses disciples, si nous observons sa parole. Parce qu'il nous a dit aussi par le même apôtre, hein, l'apôtre Jean, que celui qui garde sa parole dans 1 Jean 2, hein, chez lui, l'amour de Dieu est parfait. Et Christ sait cela. Il comprend que vous devez avoir la vérité si vous voulez parfaire l'amour de Dieu en vous. Mais c'est le genre de choses que le monde n'est pas capable de voir. Alors, le monde ne fait que regarder pour l'amour. C'est seulement ça qu'ils veulent voir. Tout le monde est capable de reconnaître le véritable amour lorsqu'il le voit. Alors, demandons-nous, qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin de savoir ce qu'est l'amour. Je me rappelle avoir mis une section dans la brochure sur la véritable Église lorsque je l'ai écrit en 2001 ou 2002, je crois. J'avais mis un encart de peut-être 4 pages dans la brochure qui expliquait comment les hommes pouvaient savoir si nous étions les disciples de Christ et comment Christ peut savoir si nous sommes ses disciples. Et j'expliquais que c'était la vérité, hein, entre la vérité et l'amour, qui revenait en premier. Mais la vérité vous conduit toujours à l'amour. Ensuite, je continuais à expliquer comment on peut savoir si nous avions vraiment la vérité et l'amour. Alors, Dieu vous bénit. Alors, et je continuais l'explication à ce sujet-là. Je revisais tout cela récemment parce que nous sommes en train de construire un livre beaucoup plus gros, hein, et beaucoup plus fort sur l'histoire de l'Église de Dieu. Nous y ajoutons une partie beaucoup plus développée sur où se trouve la véritable Église de Dieu, hein, qui vient de la brochure. Et nous ajoutons aussi, voici l'Église de Dieu restaurée. Alors, tout ça ensemble va faire un livre très fort et très puissant. Et nous avons pratiquement terminé sa mise en page. Alors, une des choses que nous sommes en train de faire en vue de nos publications, là, et c'est quelque chose dont je vais vous parler dans environ 2 semaines, c'est que nous augmentons nos livres. Le livre sur le sabbat, par exemple, a plusieurs chapitres additionnels. C'est quelque chose peut-être que j'ai mentionné dans les annonces il y a une semaine ou deux. Alors, ça va constituer un livre qui est beaucoup plus important parce que nous avons aussi ajouté à l'intérieur d'autres brochures, un peu de la même façon dont M. Armstrong agissait dans le passé. Mais je me rappelle au tout début, lorsque j'ai écrit le livre sur la véritable Église, hein, après l'apostasie, je voulais que tout le monde comprenne exactement qu'est-ce qui était le plus important pour Dieu. Qu'est-ce qui venait en premier? Est-ce que c'était la vérité ou c'était l'amour? Et la réponse, c'est celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Alors, ce n'est que chez ceux qui observent la parole de Dieu. Oui, mais comment faisons-nous pour aimer? Hein? Par quoi commençons-nous? Où est-ce qu'on commence? Quelle est la première et la plus importante des étapes sur la façon d'aimer les autres gens? Dites-vous bien que ce ne sera pas ce à quoi vous vous attendez. La réponse est la suivante. C'est que l'amour ne peut exister si vous n'avez pas de respect pour la personne que vous devez aimer. Vous devez d'abord respecter les gens. Et le respect, c'est montrer, honorer les gens, hein, les estimer, leur montrer qu'ils ont de la valeur à vos yeux, hein, que vous avez de la déférence envers un supérieur. Alors, vous pouvez peut-être jeter un coup d'œil dans le dictionnaire comment le mot respect est défini. Comme je l'ai dit, c'est honorer quelqu'un, l'estimer, lui montrer de la appréciation, et avoir de la déférence, hein, le même genre de déférence que nous avons pour quelqu'un qui est supérieur. Alors, ça demeure une déclaration intéressante ici. Le respect est quelque chose que vous montrez envers un supérieur. Alors, ce que je vous dis, avant de poursuivre, c'est que la première étape pour démontrer de l'amour, c'est d'abord avoir du respect. Et avoir du respect avec cette définition à l'esprit. Alors, posons-nous la question, comment est-ce qu'on fait ça? Rendez-vous dans 1 Thessaloniciens et au chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons lire toute une série de versets assez intéressants. Alors, commençons dans chapitre 5 et au verset 11. 1 Thessaloniciens 5, 11. Paul écrit à la congrégation ici, il nous dit, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Alors, quel extraordinaire conseil ici pour la congrégation. Et quel conseil pour nous également, qui sommes à la fin des temps. Alors, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. En fait, il est en train de leur dire, je sais que vous le faites, hein, mais il est important que vous puissiez, en fait, vous exhorter. Le mot anglais, c'est vous réconforter les uns les autres, ensemble. Alors, nous devons nous exhorter les uns les autres. Et la majorité d'entre nous ne sommes pas toujours prêts à faire une telle affaire parce que nous serions obligés de dire des choses qui ne sont pas tellement populaires. Mais il est quand même possible d'exhorter les gens d'une façon qui soit encourageante. Bien sûr, si vous parlez de réprimande, ça peut être parfois un petit peu moins encourageant, hein, et même piqué un peu plus. Mais lorsque ça parle d'exhorter, hein, exhortez-vous les autres, les uns les autres, réciproquement en tant que groupe. Alors apparemment, la congrégation faisait justement ça. Alors, au chapitre 4 et au verset 1, Paul avait déjà écrit « Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus ». Ce qu'il voulait dire, c'est que si vous vous comportez comme ça et vous voulez faire plaisir à Dieu, alors vous devriez faire toujours davantage de ce genre de choses-là. Il était donc en train de les réconforter, de les complimenter. Hein? Il leur disait qu'il les exhortait en leur disant « Continuez à vous exhorter réciproquement comme vous le faites déjà ». Et on poursuit au verset 12 ici. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection. » L'anglais dit de les estimer, d'avoir beaucoup d'estime. Alors, c'est encore une fois une idée intéressante ici, d'avoir de la considération et de l'estime pour ceux qui travaillent parmi vous. Soyez en paix entre vous. Et au verset 14, Paul leur dit, « Nous vous prions aussi, frères. » Alors, c'est quelque chose que nous devons faire en plus d'avoir de la considération et d'estimer ici. « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » En d'autres mots, exhortez les frères à ce sujet-là. Hein? Ce sont les membres de l'Église qui font ça ici. Ce n'est pas toujours au ministère de le faire. Alors, les membres qui sont partout à travers la planète ici doivent le faire, mais avec amour. Et ils ont besoin de bien savoir ce que représente l'amour ici. Et il dit, « Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, hein? Ceux qui n'ont pas un bon comportement. » Alors, nous n'avons pas suffisamment de ministres dans l'Église de Dieu restaurée. Nous savons ça. Mais Dieu nous en donne d'autres. Hein? Ils vont venir rejoindre nos rangs. Mais nous n'en avons pas suffisamment. Mais peut-être même parce que nous n'en aurons jamais autant que nous aimerions en avoir. Alors, les membres de l'Église vont être obligés de monter à la brèche, comme on dit. Ils vont être obligés de réconforter ceux qui sont faibles d'esprit, de supporter les faibles et d'être patients envers tous. Alors, ce sont tous des choses que les membres font. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est dit d'avoir de l'affection pour ceux qui sont au-dessus de vous. Alors, il ne s'agit pas ici d'un sermon sur la façon de respecter le ministère, mais ça en fait partie. Alors, ils disent beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, hein, à cause du travail qu'ils font. Alors, rendons-nous maintenant dans Philippiens 2. Philippiens, au chapitre 2. Alors, nous allons voir un verset qui est incroyablement important ici. Et si vous êtes capable d'accepter le verset pour ce qu'il dit, ça va vous changer à jamais. Ça va changer particulièrement la façon dont vous voyez l'amour et comment vous le mettez en pratique. Ce n'est sans doute pas facile à appliquer, mais si vous écoutez soigneusement, c'est assez facile à comprendre. Alors, Philippiens 2 et verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. En d'autres mots, il devrait comprendre l'amour de la même façon. Alors, si vous y pensez, il est assez impossible d'avoir le même amour l'un que l'autre sans comprendre ce que c'est de la même manière. Ce sera peut-être bon de réfléchir un peu à ça. Ensuite, il poursuit en disant « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Il disait ça parce que certains aimaient avoir la préséance, hein, aimaient s'élever au-dessus des autres. « Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Donc, vous respectez, vous honorez les gens, vous les estimez, vous avez une appréciation, hein, une considération pour eux. Vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de déférence que l'on devait à un supérieur, ici on nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Vous vous dites, les autres sont supérieurs à moi. Au verset 4 maintenant, Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alors, on ne parle pas ici certainement de convoitise, on parle des besoins des autres. Alors, au verset 4, ici, nous avons encore l'illustration de donner versus prendre. Hein. Ce qu'on voit ici, c'est un sentiment altruiste, hein, une démonstration d'amour qui suit immédiatement après, comme dans 1 Thessaloniciens 5, là, ici, qui suit immédiatement le fait de se considérer inférieur ou de regarder les autres comme supérieurs à nous. On doit se débarrasser de la vaine gloire, de ne rien faire par esprit de parti. Il n'y a rien de pire que d'être en présence ou en compagnie de quelqu'un qui est toujours rempli de lui-même. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres, hein, frères et sœurs. Et quand il dit « vous » ici, il parle de toutes les personnes dans l'Église, frères et sœurs, hein, chacun d'entre nous. Donc, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, certains vont se demander « qu'est-ce que tu veux dire au-dessus de moi-même? » Si vous me permettez de vous dire, frères et sœurs, les Écritures ne le disent pas. Est-ce qu'il y a de meilleurs dactylographes que moi, je le suis? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de sauter par-dessus une corde mieux que moi, je puis le faire? Est-ce qu'il y en a qui sont capables de plonger par en arrière sur un plongeon mieux que moi? Non, il n'y en a pas. Par contre, il y en a qui sont plus paisibles que je suis. Il y en a qui ont beaucoup plus d'habiletés artistiques que moi, j'en ai. Il y en a qui sont meilleurs avec les ordinateurs. Alors, la Bible ne donne pas de différence, ne spécifie rien. Elle dit tout simplement de considérer les autres comme étant supérieurs à nous-mêmes. Et que ce soit le cas ou non, ça, c'est quelque chose que Dieu décide. Mais le premier point à regarder, hein, l'entrée, la fenêtre, si vous voulez, vers le véritable amour est de commencer par comprendre que les autres nous sont supérieurs. Et encore une fois, je vous le répète, la Bible ne dit pas exactement ce que cela signifie. Ça veut donc dire que nous devons le faire continuellement. Peut-être avez-vous des talents que d'autres n'ont pas, mais la Bible ne qualifie pas cette chose-là. Vous devez donc vous dire vous-même, d'une façon générale, en gros, hein, je sais que je peux faire certaines choses mieux que d'autres, mais malgré tout, en moyenne, je dois reconnaître qu'ils sont capables de faire plus ou de faire des choses plus importantes en général que moi je peux en faire. C'est la façon dont on doit commencer. Ce n'est pas une question de magie biblique ici où on dit abracadabra ou une espèce de fantaisie où on se dit, par exemple, « Je sais que je suis meilleur, mais OK, je veux dire en dedans de moi que les autres sont meilleurs que moi je suis. » Si c'est ce que vous vous dites, demandez-vous plutôt, est-ce que Dieu agirait comme ça? Est-ce qu'il penserait comme ça? Bien sûr que non. Dieu ne penserait jamais d'une telle façon. La définition de l'amour commence avec l'estime ou le respect des autres parce qu'ils sont supérieurs à nous. Et il est évident, bien entendu, que cela s'applique parfaitement au ministère. Si vous regardez le fait qu'ils sont supérieurs à vous en autorité, vous devez avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, avoir de l'estime pour eux, pour ceux qui nous dirigent dans le Seigneur. Ils sont au-dessus de nous. Non, ça ne veut pas dire ça que chaque ministre fait les choses mieux que n'importe quel membre ordinaire. Ce serait ridicule de dire une telle chose. Mais ce que je vous dis, c'est que ce verset-là nous est donné par Dieu, par l'intermédiaire de Paul, sans qu'il le qualifie, et que c'est suivi immédiatement par le verset 3, ou le verset 4, hein, de considérer les intérêts des autres. Alors, vous auriez pu poursuivre avec le verset 5 ici, hein, mais nous n'avons pas le temps dans ce sermon aussi. Mais le verset 5 dit quand même d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est la façon de réaliser ce dont nous venons de parler. Le verset 7 ensuite nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le verset 8 nous dit qu'il s'est humilié lui-même, etc. Alors, rendons-nous maintenant dans Romains 12. Nous allons lire un autre verset intéressant maintenant. Romains, au chapitre 12. J'ai donné tout un sermon sur ce sujet il y a déjà plusieurs années, je crois. Et ça avait été un très bon sujet d'études bibliques. Alors, de temps à autre, si vous n'avez pas d'idée de ce que vous voulez faire comme étude biblique un matin, vous avez juste à vous lever, sortir Romains 12 et le lire deux fois. Et ça va être votre étude biblique, en prenant le temps, bien entendu, de le lire. Peut-être est-ce que vous pourriez le lire relativement rapidement la première fois, et la deuxième fois, le relire, et le faire en faisant des pauses, hein, maintenant que vous savez de quoi ça parle. Et si vous faites ça, vous venez de faire une merveilleuse étude biblique différente de toutes les autres. Alors, nous allons commencer au verset 8, hein, Romains 12, verset 8. On lit, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, que la charité soit sans hypocrisie, hein, pas à contre-cœur. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Alors, on passe un point après l'autre ici. Si je me souviens bien, il y a quelque chose comme 34 points différents, 35, 37, je ne me souviens pas exactement. Là. Je me souviens, je me rappelle les avoir comptés à un moment donné. Laissez-moi jeter un petit coup d'œil. Il y a encore des crayons, du crayon ici qui s'efface. Oui, c'est 37. Voilà. Le verset 20 se termine par les points 36 et 37. Et comme je vous dis, c'est un point après l'autre. Alors, verset 10 maintenant. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, alors c'est une déclaration assez intéressante ça, par honneur. Ça signifie ici de respecter les autres. Alors ici, on retrouve les deux mots ensemble hein, dont on parlait tout à l'heure. Et en premier, nous voyons le mot amour et ensuite on parle de l'honneur. Par honneur, user de prévenance réciproque. Alors, revenons un peu en arrière maintenant et demandons-nous, comment faisons-nous pour aimer Dieu? Hein? Comment aimons-nous Dieu? Alors, rendez-vous dans Deutéronome, au chapitre 6. Deutéronome 6, et nous allons commencer au verset 4. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alors, c'est ce qu'on appelle souvent la Shema ou la Shema. C'est ce à quoi les Juifs font référence généralement. Et les gens vont essayer de démontrer par ce passage-là que ce passage de l'Ancien Testament est ce qui valide la Trinité. Mais ce n'est pas du tout ce que ça dit. Hein? En hébreu, ce que ça dit, c'est Shama Yisrael, Yahvé ou Yehovah, Elohim, Ekad Yehovah. Alors, je l'ai écrit, je l'ai lu, je l'ai regardé ici. Et ce que ça dit, dans le fond, ça dit à Israël, n'écoute pas les autres dieux. C'est dit dans un contexte des autres dieux qui existent, hein, des autres faux dieux. Écoute, Israël, l'Éternel seul est Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Voilà ce que ça dit. Nachama signifie, n'écoute pas les autres dieux. Hein, écoute ton Dieu, l'Éternel, qui est le seul Dieu. Alors, ce n'est donc pas une déclaration en faveur de la Trinité, mais plutôt pour dire, écoute ce que ton Dieu te dit, et c'est n'écoute pas les autres dieux. Alors, maintenant que nous saisissons ça clairement, là, ce qu'il dit, c'est n'écoute pas les autres idées, écoute moi et personne d'autre. Verset 5 maintenant. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et puis, je peux ajouter d'autres choses. Hein. Les luthériens croient que c'est ça qu'ils font. Les catholiques aussi, les méthodistes, les épiscopaliens, les presbytériens, les baptistes, et tous ceux des autres groupes, hein, des splinters, les hindouistes, les bouddhistes, les musulmans, tous croient qu'ils obéissent à ce commandement-là. Alors, si vous n'avez aucune norme, hein, aucune base, aucun fondement pour faire ça, qui peut dire qu'ils sont dans l'erreur? Donc, toute personne qui dit que l'amour est ce qu'elle conçoit que l'amour est, aurait l'autorité pour nous écrire et nous dire, bon, c'est ici que vous descendez du train, hein? Il y aurait absolument l'autorité de nous dire ça parce qu'il n'y a pas de fondement. Alors, on peut se demander, comment devons-nous aimer Dieu? Dieu dit, écoutez-moi seulement et aimez-moi de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, si vous êtes supposé de faire ça, il doit sûrement aussi nous montrer comment le faire. La réponse est simple, et c'est le chapitre précédent qui nous a dit comment faire ça, au chapitre 5. On peut constater à cet endroit que Moïse est en train de plaider devant Israël ici. Alors, jetons un coup d'œil au verset 1. Alors, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne au milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu. » Alors la montagne tremblait, c'était rempli de fumée et de feu à ce moment-là. « Et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Le verset 7 dit, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Alors, c'est tout à fait en accord avec la Shama, comme nous venons de lire précédemment. Alors, il est important de toujours comprendre les choses et les mettre dans leur contexte. Vous écoutez Dieu seulement et vous aimez Dieu. Et il vient justement de dire ce que cela signifiait. Et une fois rendu dans le chapitre 6, personne n'est obligé de deviner, là. Dans le genre, « Oh, ben, je pense que ça veut dire ci, ou je pense que ça veut dire ça, ou peut-être que ça veut dire telle autre affaire. » Il vient juste de le définir. Rappelez-vous que M. Armstrong nous avait enseigné que Dieu ne permettait jamais de décider ce qui était bon, ce qui était bien, et ce que nous devrions faire. Mais il nous permettait seulement de décider si nous allions le faire ou non. C'est lui qui clarifie, qui nous dit ce qui est bien et ce que nous devons faire. Nous devons tous décider si nous allons le faire ou non. Et ensuite, on continue au verset 8. « Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses. » Verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. » Ensuite, verset 11, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Verset 12, « Observe le jour du repos, le sabbat, pour le sanctifier. » Verset 13, « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton bœuf, ni ton âne. » Ensuite, le verset 16 continue et poursuit au commandement suivant, le commandement numéro 5, « Honore ton père et ta mère. » Puis, immédiatement après tout ça, au chapitre 6, Dieu dit, « Écoute-moi et personne d'autre. Ne va pas après les autres dieux. Ne pratique pas l'idolâtrie. Fais très attention ce que tu dis à propos de moi et de mon nom. Je ne te tiendrai pas pour innocent. Et rappelle-toi mon jour pour l'observer. » Donc, le premier des commandements, c'est que vous devez respecter Dieu comme étant la seule personne que vous adorez. Vous le respectez. Et le point numéro 2, vous respectez aussi le fait que Dieu est un esprit. C'est le second commandement. Jean 4, 24 dit, « Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu est un esprit. » Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce que ça a à faire, ça, avec le second commandement, où ce qu'il nous dit, « Ne pas faire d'image. » Dieu nous dit, « Ne fais rien qui essaye de m'imiter, de me ressembler. Je suis un esprit. Tu respectes le fait que je sois un esprit, et lorsque tu te présentes comme devant moi, tu viens devant moi en esprit. Tu m'adores en esprit, et bien entendu, en vérité également. » Et rappelez-vous également que le même apôtre Jean avait dit dans sa première épître que si vous faites cela, l'amour de Dieu sera parfait en vous. Point numéro 3, le troisième commandement, si vous respectez Dieu, si vous respectez le nom de Dieu, fais très attention de la façon dont tu utilises mon nom. Puis vous avez le quatrième commandement, et celui-ci dit de respecter le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Alors il y a plusieurs versets qui parlent de retenir son pied le jour du sabbat, de faire du sabbat tes délices. Et bien entendu, je te bénirai. Vous pouvez aller dans Ésaïe 58, 13, 14 pour ça. Dieu nous dit qu'il nous fera monter sur les hauteurs du pays si nous respectons ces choses-là. Alors, le sabbat est un signe entre Dieu et son peuple. Il dit, si tu respectes mon jour, en d'autres mots, tu commences par le respecter et tu l'observes, tu l'honores, tu le gardes, alors tu te rappelleras toujours que tu es mon peuple. Tu vas toujours te souvenir qui est le véritable Dieu, et tu n'écouteras aucun autre Dieu. Est-ce que vous croyez que vous allez trouver beaucoup de personnes dans le monde qui définissent l'amour de Dieu de cette façon-là? Rappelez-vous que juste avant ça, il nous dit que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, de tout notre être, exactement comme Christ le dit dans le Nouveau Testament. Et Exode 20 dit aussi la même chose que Deutéronome 5. Nous retrouvons les 10 commandements qui y sont donnés là aussi. Dans Deutéronome 5, Moïse est en train de réitérer, hein, de répéter près de la fin de sa vie les 10 commandements tels qu'il les avait reçus. Donc, les 10 commandements nous sont donnés une deuxième fois, hein, à deux reprises exactement semblables. Alors, 1 Chronique 16 maintenant. Allons jeter un petit coup d'œil là-dessus. Essayons d'avoir une image encore plus complète de la façon dont Dieu nous dit que nous devons le respecter, avant que nous puissions passer ensuite à d'autres versets. Alors, 1 Chronique 16 et au verset 23. 1 Chronique 16 et verset 23. Chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Alors, on sait très bien que ce n'est pas tous les habitants de la terre pour le moment qui chantent, hein, ou bien qu'il y en ait plusieurs qui chantent en pensant chanter à Dieu. Alors, les gens sont supposés parler et mentionner le salut à venir de Dieu, qui est en fait le royaume de Dieu, et ça, le faire de jour en jour. Ça ressemble beaucoup à la prière que vous faites, hein, la prière quotidienne, que ton royaume vienne, n'est-ce pas? Ou ce qu'on appelle la prière du Seigneur dans Matthieu 6, 6 à 9, verset 24 maintenant. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Et c'est une des tâches de cette œuvre-ci de faire ça. Peut-être est-ce que nous n'y pensons pas réellement dans ces termes-là, mais c'est très intéressant à noter. On ne fait pas qu'aller jusqu'à vers Israël pour les avertir, mais nous déclarons aussi la gloire de Dieu, et elle doit se rendre partout sur la terre d'ici quelques années, dans toutes les nations, les choses que le véritable Dieu a faites. Nous devons leur dire que c'est seulement ce Dieu-là qu'ils doivent respecter, qui doit être l'objet de leur adoration, hein, en tant qu'esprit. Alors, rappelez-vous qu'il faut être prudent avec son nom et se souvenir de son saint jour aussi. Nous devons enseigner toutes les nations au sujet des œuvres de ce Dieu-là. Verset 25 maintenant. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Alors, si vous remarquez, ce sont tous des éléments de respect ici. Et puis, on doit chanter, hein, on doit le chanter. Nous devons parler de son salut. Nous devons déclarer ses œuvres et sa grandeur. Il doit être loué et craint. Verset 26. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. En d'autres mots, toutes les autres idoles ont été faites par les gens qui ont été faites par ce Dieu-là. Ils sont inférieurs, même aux gens qui les adorent. Alors, c'est renversant, dans le fond, de voir comment il y a des milliards de personnes qui respectent des idoles qui leur sont inférieures, des idoles qu'ils ont faites. Et c'est quelque chose de vraiment étonnant au sujet de la nature humaine. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, vous commencez pour la première fois, hein, vous présentez devant le vrai Dieu à respecter un être supérieur. Tous les autres dieux, incluant la Trinité, qui en passant est un faux dieu païen, qui est né il y a environ 1700 ans et qui avait été fait par les hommes. Alors tous les autres dieux sont des dieux non existants, faits tout simplement dans l'esprit des hommes. Et on sait qu'il n'existe pas vraiment d'idole de la Trinité en soi à l'extérieur ici, mais ça peut être une idole que vous avez dans le cœur également. La Bible parle des idoles que nous avons dans notre cœur. Alors, ça peut être une idole qui est dans le cœur des hommes, tout autant qu'une idole qui est située sous l'arbre de Noël à cette temps-ci de l'année, par exemple, en parlant de l'enfant Jésus. Ou une image que vous allez suspendre dans une fenêtre, ou encore une statue de Marie qui va être sur votre parterre. Tous ceux-là sont des dieux inférieurs, et c'est impossible de les respecter. Et pourtant, les gens insultent le véritable et grand Dieu en adorant des dieux qui sont situés même sous eux, qui leur sont inférieurs. On peut se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça? Tout simplement parce que ces dieux-là ne leur disent pas comment vivre. Mais ces dieux-là leur permettent de définir l'amour de la façon dont ils le veulent bien. Je veux dire, c'est merveilleux, la nature humaine, n'est-ce pas? C'est merveilleux, hein? En d'autres mots, je vais faire quelque chose qui m'est inférieur et qui ne peut parler, et ensuite je vais décider ce que cette chose-là est supposée me dire concernant ce qu'est l'amour, puis ensuite je vais sortir et dire à tout le monde que c'est la seule chose qui est vraiment importante. Par contre, je n'ose pas me tourner vers le Dieu qui m'est supérieur, celui qui m'a fait, parce que si je faisais ça, alors je serais peut-être obligé de pratiquer l'amour à sa façon et commencer à observer son jour. Je serais de plus sans doute obligé de tirer à la poubelle toutes les autres idoles, changer ma façon dont je prononce certains noms et bien entendu ne jamais me rendre devant d'autres dieux. Alors tout ça commence par respecter Dieu, les quatre premiers commandements. Peut-être est-ce que vous commencez à voir de quelle façon l'amour véritable est différent. Et peut-être vous rendez-vous compte à quel point cela est différent avec ce que vous croyiez auparavant. Et nous n'avons même pas abordé le sujet de l'amour du prochain ici, là. Alors Jean 5 et verset 23 maintenant. Rendez-vous à Jean 5 et verset 23. J'ai réellement la nausée lorsque je vois les gens qui laissent l'Église et qui ensuite attaquent avec amertume, comme ça a été le cas dans la lettre que je vous ai citée il y a quelques minutes. Ils détruisent, ils accusent, ils ont une attitude qui est trompeuse, hein? Ils parlent à propos de l'amour, alors que tout ce qu'ils essaient de faire la plupart du temps, c'est de blesser, de massacrer ou d'accuser les autres. Chacune des pensées que nous avons lues dans cette lettre-là, essayez de lui faire comprendre ça, là. Hein? Lui qui a ce feeling-là, là, que nous n'avons pas d'amour, nous. Alors, il se sent obligé de vouloir libérer tout le monde. Il sert un autre Dieu en passant, qui est supérieur à lui en puissance, mais qui est inférieur à Dieu. Personne ne pense servir le diable. Et je suppose que les serviteurs de Satan, oui, le font, mais la majorité des gens ne font que servir des idoles. Et c'est Satan qui les pousse à faire de telles choses. Jean 5 et verset 23. Ne vous laissez jamais avoir, frères et sœurs, par la stupidité des gens qui nous quittent et qui essayent de nous convaincre par la suite qu'il n'y a pas d'amour ici. Généralement, l'esprit des gens qui écrivent de telles choses sont les esprits les plus froids, les plus sombres, et je dirais même les plus morts qu'il peut y avoir dans l'Église. Et je vous dis cela, et Dieu m'en est témoin. J'ai commencé à remarquer cela il y a environ 25 ans. Et cette feuille de papier que je tiens ici, je l'ai écrite il y a environ 25 ans de ça. Et je disais, un jour, je vais avoir besoin. Hein? Un jour, il va venir où il va falloir que je donne un sermon sur ce qu'est réellement le fondement de l'amour. Mais je n'ai jamais réussi réellement à le faire. Alors je disais, il va falloir que je donne ce sermon-là. Et je serai capable de le développer et d'en parler. Alors j'ai eu une semaine supplémentaire à cause de la tempête de neige que nous avons eue la semaine dernière et ça m'a permis de travailler sur ce sermon-là. Donc Jean 5 et verset 23 maintenant. Nous allons commencer au verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Oui, nous l'aimons et c'est important, mais tout commence par d'abord l'honorer. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Il est intéressant de noter que beaucoup de personnes qui disent que nous n'avons pas d'amour dans leur vie privée, ils contreviennent au sabbat. Ils n'honorent pas Dieu. Ils n'écoutent pas le véritable Dieu. Alors, comment les enfants aiment-ils leurs parents? Rendez-vous d'abord dans Éphésiens 6. Éphésiens 6, et nous allons commencer au verset 1. Alors, c'est pas ça ce que disent. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » On voit ici que honorer son père et sa mère est défini par « obéissez ». Obéissez à vos parents. L'honneur, hein, honorer, est relié à l'obéissance. Donc, on honore Dieu, on le respecte, on l'estime, hein. On écoute Dieu et nous l'aimons en lui obéissant. Et c'est exactement la même chose en ce qui concerne les enfants avec leurs parents. Alors, jusque maintenant, nous avons vu qu'en ce qui concerne Dieu ou ce qui concerne les parents et même toute autre personne qui sont en autorité au-dessus de nous, l'amour que nous avons envers ces personnes-là doit commencer par le respect. Et ceci nous provient du fait que nous connaissons ces personnes-là et que nous les respectons comme étant des gens qui nous sont supérieurs. Nous les considérons comme étant au-dessus de nous. Donc, c'est ce que nous avons vu concernant Dieu, les parents ou personnes en autorité au-dessus de nous. L'amour doit commencer par le respect, parce que nous voyons et que nous acceptons, hein, nous admettons qu'ils sont supérieurs, qu'ils nous sont supérieurs. Admettre que les autres nous sont supérieurs n'est pas la même chose que dire que je suis inférieur. Ou, dans le genre, j'ai un complexe d'infériorité. On n'essaye pas de se diminuer ici. Le complexe d'infériorité est tout simplement une vanité renversée, inverse. C'est le genre de choses que j'ai expliquées pendant des années. C'est une façon de donner des excuses pour vos propres échecs avant même que ces échecs-là arrivent, de façon à ce que vous n'ayez pas l'air si pire que ça lorsque les erreurs vont se passer, vont arriver. Autrement dit, vous allez avoir de l'air mieux à ce moment-là. Donc, c'est de la vanité. On ne parle pas ici de vous dire inférieur, vous-même. On parle des autres qui vous sont supérieurs. Il y a une différence dans tout cela. Ça signifie que vous êtes capable de marcher droit, les épaules en arrière, la tête redressée, tout en reconnaissant que les autres peuvent vous être supérieurs ou qu'ils vous le sont. Les enfants peuvent de toute évidence dire « mes parents me sont supérieurs ». Et je peux même dire qu'il y a de toute évidence une autorité supérieure dans le ministère à celle que moi-même j'ai. Il est évident que Dieu m'est supérieur comme il est supérieur aux idoles qui sont inférieures. Alors, certaines choses sont élémentaires. Alors, demandons-nous comment pouvons-nous aimer notre prochain? Alors, nous sommes rendus à parler maintenant d'autres êtres humains, notre prochain. Mais avant de rentrer dans le sujet, je veux prendre une petite pause et faire remarquer que lorsque quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'amour ici, hein, vous savez, on est supposé s'aimer les uns les autres, là, il commence à choisir les sujets, hein, qui ils vont accuser, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, là, sous cette mantra-là de « il n'y a pas d'amour ici ». En fait, les personnes dont vous parlez ici sont des personnes qui sont arrogantes et qui n'ont jamais réussi à admirer leurs parents, ou Dieu, ou le ministère qui était placé au-dessus d'eux autres. Ce sont des gens qui, par vaine gloire, se lèvent, attaquent, assassinent, détruisent ou essayent de tromper les gens sous la bannière de l'amour, et qui, par des paroles douces et flatteuses, hein, comme Paul le disait, séduisent les cœurs des simples. Il y en a qui vont acquiescer, hein. C'est vrai, je ne vois pas beaucoup d'amour ici, puis ils vont commencer à s'en aller. Alors voilà pourquoi il est écrit, « Prenez note de ceux qui causent des divisions ». Ce qui est écrit, c'est que je vous exhorte, frères, à prendre garde, hein, à marquer, en fait, dans l'original, « ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Et généralement, frères et sœurs, lorsque vous avez une personne qui aura une attitude arrogante, hein, une attitude de meurtre, une attitude d'accusation, qui veut attaquer et détruire, généralement, ça va être dirigé contre moi. C'est la façon dont les choses vont se dérouler, et c'est la façon du diable de travailler, que ce soit contre moi ou des autres ministres à des degrés divers. Alors, il y a des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'amour, mais ils n'arrêteront pas d'en parler parce que c'est ce que font tout le monde dans le monde. Et c'est également ce que c'est qu'on fait beaucoup aussi dans les autres groupes, hein, les autres splinters. Saviez-vous ça? C'est ce qu'on doit faire. Et c'est ce qu'ils vont faire avec leurs belles paroles flatteuses et leurs lettres. Il faut dire que le courriel est une chose absolument merveilleuse. L'Internet sert aussi le diable, hein, de la même façon qu'il est utile à l'œuvre de Dieu. Donc, ces gens-là sont capables de tromper les simples. La question à se poser, est-ce que vous allez être parmi ces gens-là? Il va y avoir des gens qui vont nous quitter. Et ceux qui se tournent vers l'iniquité, qui s'éloignent de la véritable définition de l'amour qui est basée sur la loi, amour qui va se refroidir au fur et à mesure que nous approchons de la fin, comme c'est parlé comme on en parle dans Matthieu 24, vous vous rappelez. Alors ces gens-là vont souvent nous quitter sous prétexte qu'ils s'en vont à un endroit où ils vont être capables d'exprimer davantage d'amour. Est-ce que vous allez vous laisser tromper par cela? Alors, je me répète la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment est-ce que nous devons aimer notre prochain? Alors, Matthieu 22, rendez-vous dans Matthieu 22, et nous allons commencer au verset 34, de façon à pouvoir vous donner un peu de contexte. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, il lui a répondu en fait ce qu'on retrouve dans Deutéronome 6,5, et vous connaissez le contexte, on l'a vu tout à l'heure. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Donc, on voit que cela n'a pas changé. Les quatre premières lois sont demeurées exactement la même chose, Deutéronome 6, 4 et 5 ici. Alors, c'est ce qui suit, en fait, Deutéronome 5, hein, la liste des 10 commandements, et nous avons lu les quatre premiers. Alors, ne laissez jamais personne vous dire que la façon d'aimer Dieu est différente de cela. Ne permettez pas, par de belles paroles ou des paroles flatteuses, que les gens vous trompent. Rappelez-vous, nous sommes les faibles du monde. Nous sommes les simples. Et nous devons commencer en pensant que je suis simple jusqu'à preuve du contraire. Je suis coupable jusqu'à preuve de mon innocence. Tous, chacun d'entre nous, autant que nous sommes. Alors voilà quel était le contexte ici. Verset 39 maintenant. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on peut se demander quelle est l'importance de ces deux choses-là. Il nous est dit au verset 40, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors on se repose la question, à quel point est-ce que c'est important de comprendre l'amour? Tout, hein, tout repose sur la compréhension du fondement réel de l'amour. L'amour n'a rien à voir avec un ordinateur, un courriel ou encore des gens qui dactylographient. Les gens vont vouloir vous dire que c'est ça, hein, incluant les athées, les bouddhistes, les hindous. En fait, l'amour, c'est ce que Dieu vous dit et seulement ce que Dieu vous dit ce que c'est. Peut-être que vous commencez à comprendre pourquoi Paul et Jean, hein, dans 1 Jean 5,3 et Paul dans Romains 13,10, disent que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Vous étiez-vous déjà posé la question là-dessus? Aimez votre prochain comme vous-même. Alors, on poursuit. Le cinquième commandement, c'est plutôt évident ici, tu honoreras ton père et ta mère. Alors, nous avons déjà parlé de ce commandement-là. On va donc se concentrer sur les cinq derniers. Donc, les quatre premiers parlaient de Dieu. Et ensuite, nous avons touché à ce qui concerne les parents, ce qui était le numéro 5. Alors, nous commençons par Dieu, les quatre premiers commandements. C'est la façon dont Dieu pense ici. Puis, vous commencez à élever vos enfants lorsqu'ils sont jeunes, et vous en arrivez au tout premier commandement qui enseigne aux enfants que les premiers êtres humains que vous devez respecter et à qui vous devez obéir sont vos parents. Et vous avez un commandement complet sur ce sujet-là. Alors, nous avons dit souvent que M. Armstrong avait enseigné que les quatre premiers commandements nous enseignaient comment aimer Dieu et que les six derniers nous enseignaient comment aimer les hommes. Mais vous retrouvez toujours cette espèce de commandement au centre, commandement pivot, là, qui s'appelle le cinquième. Vous avez une génération aujourd'hui, hein, la dernière génération là, que les proverbes disent qui est souillée, hein, qui maudit père et mère et qui n'obéit pas. Et c'est la raison pourquoi cette génération-là qui vit aujourd'hui ne vivra pas très longtemps dans le pays. Ils ne vivront pas longtemps. C'est ce que Dieu dit, et ce n'est pas moi. Donc, vous avez ce cinquième commandement qui est dédié aux petits-enfants qui ne sont pas encore capables de voir Dieu. Et on doit leur enseigner qu'ils doivent honorer papa et maman et leur obéir. Et je peux dire honte aux parents qui n'enseignent pas à ces petits-enfants-là de faire les choses de façon sage, soigneuse, discrète, hein, avec patience et amour, qui ne leur enseignent pas de faire ça de la bonne manière, de façon à leur montrer et à leur faire comprendre comment ils doivent comprendre Dieu, le respecter dans les quatre premiers commandements, pour ensuite apprendre à respecter leurs semblables et leur montrer comment aimer leur prochain en observant les cinq derniers commandements. Ensuite, vous avez le commandement numéro 6, qui est un respect pour toute vie. Tu ne tueras point. On peut se demander comment pouvez-vous aimer quelqu'un si vous le tuez? Vous avez des dizaines de milliers de chrétiens, entre guillemets, là, présentement, des jeunes hommes qui sont en Irak et en Afghanistan. Et c'était la même chose des deux côtés lors de la guerre en Europe, pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Des deux côtés dans la guerre civile américaine qui se tuaient. Hein, les deux côtés priaient. Et leur maman priait aussi, pour le Sud ou pour le Nord, pour les Allemands, pour les Américains ou encore les Anglais. Tous les côtés faisaient la même chose. La puissance de l'Axe et les Alliés, tous priaient le même Dieu. Protégez mon garçon. Assurez-vous que c'est l'autre qui va mourir, pas mon garçon. Hein, les deux côtés faisaient ça. Et qu'est-ce que Dieu qui était au ciel était supposé faire avec ça, lui? Alors c'était insulter Dieu. Hein, le Dieu qui vous dit « tu ne tueras point ». Lui qui voit des parents des deux côtés dans chaque guerre où vous avez des chrétiens, par exemple, qui combattent des chrétiens. On peut dire au moins, ils savent qu'ils sont supposés prier ce Dieu-là en disant « Dieu, aide mon garçon à tuer l'autre garçon » lorsque la mère priait. « Aide mon garçon à tuer l'autre garçon ». Alors, vous aviez un nombre considérable de mères luthériennes en Allemagne qui priaient que les garçons des soldats alliés meurent afin que leurs garçons allemands qu'ils aimaient puissent revenir à la maison. Donc, ce commandement ici parle du respect de toute vie. On doit respecter la vie. Voilà comment on doit aimer son semblable. Maintenant, dans le Nouveau Testament, bien entendu, il est écrit qu'on ne doit pas haïr son prochain. Celui qui hait son frère, et c'est l'équivalent d'avoir un meurtre dans le cœur. Et c'est une des choses que j'ai remarquées à travers les années. Lorsque les gens quittaient l'Église il y a plusieurs années, toujours en attaquant M. Armstrong ou le quartier général, ils avaient de la haine dans le cœur. Hein? Ils avaient le meurtre dans leur cœur. Ils n'avaient aucun respect pour les autres personnes. Et cela s'accomplissait presque toujours, comme je vous l'ai dit, avec cette espèce de mantra que « j'ai pas trouvé d'amour, là ». Et vous pouvez repasser hein, les autres commandements, le 7e, le 8e et le 10e. Hein, juste aller regarder tous et vous allez voir qu'il y a toujours une question de respect. Respect pour les possessions des autres, respect pour les conjoints des autres, respect pour la vérité, pour ne jamais dire de mensonges. Alors, allons les lire dans Exode au chapitre 20 maintenant. Juste les lire. Essayons de les voir clairement. Alors, Exode 20, 12, on peut y lire. « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Verset 13, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. » Alors, on parle ici des hommes qui vont rechercher d'autres femmes, ou encore des femmes qui vont rechercher d'autres hommes. « Tu ne déroberas point. » On doit respecter la propriété des autres, ce qu'ils possèdent. Après avoir respecté le conjoint, on doit aussi respecter tout le reste qu'ils ont. On ne doit pas les voler, parce que voler est un acte de haine et non pas d'amour. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, c'est un respect ici pour la vérité, hein, toute la vérité, que ce soit des vérités doctrinales ou que ce soit des vérités qui sortent de notre bouche. Et ensuite, on arrive au 10e commandement. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Mais cela nous ramène même au 7e commandement, hein, en parlant du conjoint de un ou de l'autre. On ne doit pas convoiter quoi que ce soit. Alors, voici un petit problème ici. Le 10e commandement est un acte qui se passe dans l'esprit. Hein? C'est un acte de l'esprit. Le 7e, lui, c'est accomplir cet acte-là. Mais ici, au 10e commandement, on voit que Dieu donne à des esprits charnels un commandement qu'ils ne sont incapables d'observer selon la lettre. On doit avoir le Saint-Esprit, éventuellement, hein, ou finalement, afin d'être capable de garder les commandements. Mais vous devez avoir le Saint-Esprit pour observer le 10e commandement d'une façon ou d'une autre. C'est impossible d'observer le 10e commandement selon la lettre sans avoir le Saint-Esprit. Alors, il est possible d'observer tous les autres commandements selon la lettre sans avoir le Saint-Esprit. Alors, on peut lire dans Romains 7, 7, hein, reportez-vous-y. Lorsque Paul écrit, là, il a écrit qu'il était irréprochable selon la loi et il avait dit ça, en fait, nombre de fois, hein. Alors, dans Romains 7, 7, Paul nous dit, « Que dirons-nous? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Alors, ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il a compris qu'il était un pécheur. Lorsqu'il regardait le 10e commandement, je me suis aperçu que je convoitais des choses et qu'il n'y avait absolument aucune façon pour moi d'arrêter ça sans avoir l'Esprit de Dieu. Et ensuite, vous pouvez continuer à lire le restant du chapitre qui illustre la guerre qui se passait, qui avait lieu dans son esprit. Donc, avoir du respect pour la vie, pour le conjoint des autres, pour leur propriété, pour la vérité, et ne jamais convoiter ces choses-là, ce qui nécessite bien entendu d'avoir l'Esprit Saint, est la façon dont nous devons aimer les autres personnes. Et tout ça commence toujours par le respect. L'amour commence toujours par le respect, en estimant les autres, en les honorant. Et vous savez, vous ne voudrez jamais voler quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un que vous croyez votre supérieur. Au contraire, vous auriez toujours une espèce de sentiment de respect à son égard. La façon dont les gens vont blesser les autres, ça va être s'ils s'élèvent au-dessus des autres personnes, sentant maintenant qu'ils peuvent les écraser et les blesser. Certains vont se dire, on peut maintenant leur faire du mal parce que ce sont des êtres humains inférieurs. Les gens sont cruels envers les animaux des fois parce que les animaux sont considérés comme inférieurs aux gens. Il est plus facile d'être cruel envers des animaux que ça l'est envers les gens. Il y a des gens qui sont souvent terriblement cruels envers les autres personnes. Et tout cela commence toujours par une attitude de vaine gloire, comme on dit, au lieu d'estimer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Nous devons user de prévenance réciproque et nous honorer les uns les autres. Avoir de la prévenance l'un envers l'autre. Prenez comme exemple le mariage. L'amour commence par le respect. Alors, Éphésiens, chapitre 5, ici. Vous allez voir, c'est quelque chose de fascinant. Et nous retrouvons ce thème partout à travers toute la Bible. Éphésiens, chapitre 5. Alors, si je me rappelle bien, c'est les 12 versets, dans la section du Nouveau Testament, où on nous montre comment les épouses et les maris doivent vivre ensemble. Et ça commence au verset 22, Éphésiens 5 et verset 22. Alors, ça commence par les femmes, les épouses, mais il y a aussi beaucoup d'instructions qui sont dirigées vers les maris par la suite. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Vous respectez le mari. Et une femme doit faire ça avec foi. C'est une chose qui est difficile pour une femme à faire, ça. Elle doit accepter de se soumettre à un être humain qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus grand, beaucoup plus gros qu'elle, et de se mettre sous son autorité en faisant ce qu'il lui demande. C'est quelque chose qui est très difficile pour une femme à faire. C'est beaucoup plus facile pour l'homme de dire « c'est moi qui mène », que pour une femme qui dit « c'est toi qui mène ». Alors, tout cela commence par le respect. C'est ainsi que commence, en fait, l'union, le mariage, l'institution du mariage. On continue au verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ. » Wow! Regardez le niveau, la norme, le seuil de respect que les femmes sont supposées apporter au mariage. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mais immédiatement après ça, on voit ce qui survient dans le mariage. On parle ici du mari. Et ça commence par les paroles suivantes. Alors, le mari peut dire, OK, c'est moi qui est en charge, c'est moi qui conduis, qui mène, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, voilà la réponse au verset 25. Mari, aimez vos femmes. Alors, ne tirez jamais avantage de votre position, de votre taille, de votre autorité. Et vous pouvez vous demander, à quel point est-ce que je dois les aimer? À quel degré et de quelle façon? Alors, on poursuit. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà la norme. Et on parle ici du même Christ qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour pour quelqu'un que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Christ a fait. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ce Fils a dit, Je donne ma vie et je la reprends. C'est moi qui décide. Je l'ai faite, j'ai voulu. Ce n'est pas le Père qui lui a ordonné. Et il s'est rendu jusqu'à la croix. Donc, Christ a décidé de faire cela. Et aujourd'hui, il peut se retourner vers nous et nous dire de faire la même chose. Voilà la norme. Nous devons mourir pour les autres personnes. Vous devriez mourir pour votre femme, si c'était nécessaire. Si vous deviez donner votre vie pour votre femme, vous devriez le faire tout comme Christ le fait. Saviez-vous ça? Vous êtes le sauveur du corps. Et il y a des maris qui ont donné leur vie pour leur femme. Il y en avait tellement dans les premières années, je me souviens, lors des conseils, car Dieu m'a utilisé beaucoup pour conseiller au niveau des mariages. Il y a plusieurs parmi eux qui pensaient, qui disaient, c'est moi qui mène. Hein? Ils faisaient comme on appelle, entre guillemets, un power trip. Mais ils avaient oublié qu'il y avait les versets 22, 23, 24 pour les femmes, peut-être. Mais ensuite, pour les maris, sur la façon de les aimer, il y avait les versets 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32. Il y a 8 versets, là. Si on lit le verset 33, « Du reste que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Alors, ça fait 8 versets et demi. Alors, si vous regardez, vous avez 3 versets et demi pour la femme et 8 versets et demi pour l'homme. C'est presque un rapport de 3 à 1, ici. Alors, on met l'emphase sur l'amour, mais ça commence par la femme qui dit « Je te respecte ». Puis, on fait un 360 degrés avec tout ce qui est écrit ici. Et on termine au verset 33, « Et que la femme respecte son mari. » Si vous respectez, vous avez de l'amour, beaucoup d'amour. Hein, c'est la norme complète dans le mariage. Et cela vous revient vers vous. Et elle est capable de dire ensuite, « Wow, quel homme merveilleux !» Et elle le respecte et le révère encore davantage. Puis lui qui voit ça, il lui donne davantage d'amour, n'est-ce pas? Voilà la façon dont les choses sont supposées se dérouler. Malheureusement, dans l'Église, à travers les années, et même parfois aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ça ne devra pas. Ça ne devra pas se dérouler comme ça. 1 Pierre 3 maintenant, et au verset 5. On va donner une couple de derniers versets maintenant. 1 Pierre 3 et verset 5. En fait, 3 derniers versets. 1 Pierre 3 et verset 5. Alors ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alors ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé du temps de Pierre ou de Paul, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, il l'appelait son Seigneur. Wow! Hein? C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. En d'autres mots, vous ne devez pas vous alarmer, là. Hein? Ne pas craindre, ne pas avoir peur. Peut-être que vous voulez vous demander, pourquoi est-ce que j'aurais pas peur? Mais si votre mari vous aime comme Christ aime l'Église, alors où serait la place pour la crainte et la peur, là, ici? Verset 7, « Marie, montez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les. » Alors, minute, là, je pensais que c'était la femme qui devait honorer l'homme, et même avoir de la révérence à son endroit. Est-ce que ce n'est pas un peu mêlant, ça, ici? Alors, il est écrit, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » Alors, qui est le plus fort? Est-ce que c'est Christ ou l'Église? Tout mari qui va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église sait qu'il est beaucoup plus fort que son épouse et il l'honore. Bien entendu, Dieu honore l'Église. Il prend soin d'elle, il la protège, il la bénit, il la guide, il l'aide à faire le travail, il la guérit et il continue à ajouter des membres à chaque jour. Il a promis que personne ne la détruirait. Il est lié par les décisions qui sont prises en son sein en plus. Alors qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, n'est-ce pas intéressant, ça? On commence par la femme, avec respect, puis l'amour de la part de l'homme, et ensuite, on revient pour avoir encore plus de respect envers la femme, ce qui entraîne encore plus d'amour de la part de l'homme, mais en même temps, l'homme qui va aimer sa femme comprend aussi que la façon de l'aimer, c'est de l'honorer. Peut-être vous vous direz de quelle façon, mais elle est exactement comme vous. Vous êtes tous les deux héritiers de la grâce de Dieu. Alors, soyez prudents, hein, les hommes. Votre femme peut peut-être être au-dessus de vous dans le royaume. Et c'est quelque chose auquel on doit réfléchir, n'est-ce pas? Bon, alors ça fait tellement réfléchir que vous êtes là, assis, là, tout étonné, à pas savoir si vous devriez lire, devriez rire ou pas. Alors, personnellement, moi, je ne rirais sans doute pas en pensant à ça. Non, non, je fais des blagues. Vous pouvez rire, parce que vous comprenez très bien ce que je veux dire ici. Alors, chapitre 2 et verset 17 maintenant. Chapitre 2 et verset 17, mais ensuite nous reviendrons au chapitre 3. Alors, c'est écrit, « Honorez tout le monde ». Vous savez, il y a quelque chose d'intéressant ici, si vous regardez vraiment le verset. Ça résume tout ensemble. Hein? Honorez tout le monde, aimez les frères. Hein? Attends, on retrouve ici encore l'amour et l'honneur qui sont mélangés une autre fois. Craignez Dieu, le genre de choses qu'on ne peut pas faire, ces choses-là, si on ne craint pas Dieu. Et honorez le roi, c'est-à-dire tous ceux qui sont en autorité au-dessus de vous. Et ici, on parle, bien entendu, des choses qui s'appliquent même dans le monde. Hein? Honorer le roi. Alors, ce n'est pas étonnant que dans l'Ancien Testament, on nous disait de ne pas parler en mal du prince de ton peuple. Alors, peut-être que vous vous rappelez, lorsque Paul était devant le tribunal, il avait fait une erreur et il avait reçu une gifle. Alors, il avait dit à ce moment-là, il présentait ses excuses. Hein? Excusez-moi, parce que je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Alors, honorez tout le monde. Voilà ce qui est écrit. Ensuite, aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Donc, on ne peut séparer l'honneur, le respect, la déférence, l'appréciation des autres, l'estime et le fait de voir les autres comme étant supérieurs à nous. Hein? On ne peut séparer ça de l'amour vrai, du réel amour. Alors, que ce soit entre les enfants envers les parents, ou entre les gens par rapport aux prochains, ils sont tous des êtres humains, aux yeux de Dieu, qui les a créés. Donc, nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, le dernier verset maintenant, au chapitre 3 et au verset 8. Alors, nous allons lire ce qui suit après les maris, chapitre 3 et verset 8. Enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Alors, les gens m'injurient beaucoup. Ils m'écrivent des lettres horribles parfois. Mais je n'ai pas l'intention de leur répondre. C'est quelque chose que j'ai appris à ne pas faire il y a déjà bien longtemps. J'étais en train de repasser le livre sur les accusateurs en ajoutant des petits morceaux ici et là. Alors, périodiquement, j'ai besoin de relire ce livre-là pour voir ce que c'est qu'il dit. En fait, ce que je me dis à moi-même, c'est-à-dire ce que Dieu m'a fait écrire. Alors, en gros, ce sont des passages de la Bible. Hein? Personne n'a jamais écrit un livre comme ça. Et c'est un livre que j'ai dû écrire en 2000 lorsque on m'a attaqué. Qu'est-ce que Dieu voulait que je fasse? Hein? Une des choses était de ne pas injurier les gens qui le faisaient. Ne pas essayer d'expliquer ou de répondre aux accusateurs. Tout ce que ça donne, c'est davantage d'accusations. Donc, je ne ferai pas ça, jamais. Et ça ne fait absolument rien si les gens disent que je n'ai pas de l'amour. Hein? Je n'ai pas d'amour. Ou si l'EDR en a pas. Ça m'importe peu ce qu'ils font. C'est le genre de choses qui se sont dites pendant des milliers d'années. Parce que les gens ne comprennent pas et n'ont pas, pendant des milliers d'années, eu cet honneur, ce respect, cette estime des autres et cette reconnaissance de la supériorité des gens par rapport à eux autres. Tout cela, ici, c'est la base, hein, c'est le fondement et le commencement de l'amour réel. Et je me suis aperçu que ceux qui ont le moins d'amour, hein, c'est ce que j'ai vu pendant les nombreuses années et décennies de ma vie, que souvent ce sont les gens qui en parlent le plus. Et on poursuit au verset 9. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns les autres. Et l'amour commence par le respect, et le respect peut exister seulement lorsque nous croyons et que nous savons que quelqu'un est supérieur à nous. Ce qui est le cas avec nos parents, ce qui est le cas avec Dieu, mais nous devons aussi aimer notre prochain, notre conjoint ou toute autre personne. Nous devons aussi les respecter et les considérer comme étant au-dessus de nous, meilleurs que nous. Finalement, nous allons aller dans le psaume 133. Les sentiments n'ont pas d'importance. Hein? Ils ne comptent tout simplement pas. Ils sont passagers. Ils sortent tout simplement d'un cœur qui est trompeur par-dessus toute chose et désespérément méchant, comme le dit le verset. Qui peut le connaître? Je peux vous dire une chose, moi. Ceux qui ne connaissent pas leur cœur sont souvent ceux qui parlent, qui partent de l'Église avec un esprit de meurtre en dedans d'eux, et qui disent que les autres n'ont pas d'amour et qu'ils ne cessent d'accuser les autres. S'ils voulaient vraiment avoir de l'amour, tout ce qu'ils auraient à faire, c'est juste d'en montrer davantage. Ou tout simplement, ils partiraient tranquillement, sans faire de bruit. Mais ce n'est pas ce que le Dieu qu'ils servent veut qu'ils fassent. Donc, ils quittent et ils sont pris captifs par Satan. Vous savez, comme dans 2 Timothée 2 ici, au verset 26, hein, ils sont tombés dans les pièges du diable. Voici, « Oh, comme il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble !» Et je rajoutais, « En se réconfortant les uns les autres, hein, en s'exhortant les uns les autres, en s'avertissant les uns les autres, et en se corrigeant aussi les uns les autres. » Vous vous rappelez, dans 1 Thessaloniciens, « C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. » C'est quelque chose à propos duquel vous pouvez lire en passant dans Exode 30. J'ai jeté un petit coup d'œil là-dessus. Ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas lu, en commençant vers le verset 25, et je crois que ça se rend jusqu'au verset 31. Alors, cette huile-là a été déversée sur Aaron et sur ses fils, et ça a vraiment coulé jusque sur sa barbe. Donc, on sait qu'Aaron avait une barbe, nous savons ça, et ça a continué à couler et tomber sur ses vêtements par la suite. Alors, c'était une espèce d'huile aromatique merveilleuse. Donc, le souverain sacrificateur était une représentation du Christ, et l'odeur de cette huile-là devrait être une belle odeur douce. Hein? Alors, c'est une image qui est un petit peu curieuse si on la regarde du côté humain seulement. Imaginez-vous Aaron qui est en train de marcher comme ça et qui déverse cette huile-là, ce liquide-là sur lui-même qui coule le long de sa barbe. Peut-être pour celui qui ne savait pas ce qui se passait ou qui était situé un peu plus loin, peut-être que tout ça ressemblait un peu comme la salive, hein, qui sait. Mais ça ne sentait pas ça. C'était de l'huile. C'était une espèce de onguent, hein, liquide, de l'apothicaire, par exemple. Alors, c'était d'une très belle odeur et c'est comparé à la rosée de l'Hermon. Comme on peut le lire dans le verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Les sentiments ne comptent pas, frères et sœurs. Le véritable amour va créer de bons sentiments, mais seulement marcher ou fonctionner par le sentiment de « ils n'ont pas d'amour », ça ne compte pas, ça. Un mariage, une famille ou l'Église ne peut être uni réellement que si tout est basé sur un respect réel l'un pour l'autre. Et cela s'applique à toute personne au sein de l'Église.